Nous allons ce soir avec notre invité Gabriel Galis, spécialiste de ces questions de la paix, essayer de comprendre ce qui était en œuvre il y a un peu plus de 100 ans, lorsque l'on portait à la suite et à la foulée des traités de paix avec la Première Guerre mondiale finissant, la Société des Nations, précédée par un Bureau international de la paix et ses volontés portées par des prix Nobel de la paix, dont le Belge Henri Lafontaine, d'essayer d'aboutir à l'arbitrage international. Ce sont des motivations que l'on retrouve aussi après la Seconde Guerre mondiale dans la formation des Nations Unies. Alors, point historique, point de friction et point d'impuissance, c'est ce que nous allons envisager ce soir ici au bout du jour.
La première,
19h-20h,
au bout du jour,
Eddie Kackelbergs.
Depuis le début du conflit, nous n'avons cessé de demander justice pour notre peuple. Nous n'avons jamais voulu l'horrible guerre qui nous a été imposée et dans laquelle nos populations innocentes ont été massacrées. Nous continuerons à lutter par la parole et par la plume. L'injuste, monstrueuse dont notre peuple est victime, doit être réparée. Des nations réunies à Genève, nous attendons que la justice que nous demandons depuis de longs mois nous soit enfin rendue.
Bonsoir Gabriel Galis.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'Institut international de recherche pour la paix à Genève. La paix, c'est depuis plus de 100 ans, 200 ans, 3000 ans, un vœu pieux?
C'est un combat. La paix, c'est un combat. Et avec des hauts et des bas. Et de toute façon, aujourd'hui, nous sommes dans des guerres quasi permanentes. La guerre, c'est pas simplement du sang qui coule, c'est toutes les formes de la guerre idéologique, la guerre économique, la guerre technologique. Nous sommes en guerre sans le savoir et nous nous y prenons part parce que nous sommes contribuables, parce que nous sommes électeurs et parce que souvent on ne dit pas toute la vérité.
On ne le sait pas ou on ne veut pas le savoir?
Je crois d'abord que c'est difficile de savoir en détail. Il faut prendre du temps pour se documenter aux bonnes sources et c'est un vrai travail. Tout citoyen, tout consommateur n'a pas le temps de faire ça tous les jours. Il y a des filtres, il y a des informations erronées, il y a de la propagande pour dire les choses par leur nom. Bon, il y a un exemple moi qui me paraît typique, si vous voulez, c'est quand un certain nombre de pays dits occidentaux, je donnerai pas la liste mais on pourrait y revenir, vont soutenir des rebelles modérés en Syrie, au Liban ou ailleurs. Ces gens-là, ce sont des égorgeurs, hein, ce sont des filiales de Al-Qaïda qu'on distingue pieusement de l'État islamique supposé encore plus méchant. Ces gens-là, quand ils traversent la Méditerranée et qu'ils viennent tuer des gens dans le centre de Bruxelles ou dans le centre de Londres ou dans le centre de Paris, on les appelle des terroristes. Quand ils repartent là-bas, ils redeviennent des rebelles modérés. Moi, expliquez-moi, il y a des livres là-dessus très documentés qui expliquent les montants d'argent des programmes développés pour ça, qui expliquent que ce sont les Saoudiens qui les financent, mais avec la bénédiction des Occidentaux. Donc on n'est même pas capable d'être conscient que on soutient nos assassins, en clair. Et ça, c'est une forme de guerre, c'est un mélange de guerre civile, de guerre asymétrique. Enfin, on a tout plein de terminologies,
ouais,
mais on est dedans.
Ouais, peut-être parce que, à l'instar de la grande puissance américaine, payant à un certain moment Oussama Ben Laden quand il s'agit de créer des combattants contre l'Union soviétique en Afghanistan, tant qu'ils tuent les autres et qu'ils nous tuent pas nous, bah alors sont des combattants.
Oui, mais alors le coup de l'Afghanistan, on l'a refait avec la Bosnie, parce qu'il faut quand même que savoir que Ben Laden, il avait un passeport bosniaque. Hein. On l'a refait avec la Bosnie et maintenant on le refait avec la Syrie, après l'avoir fait avec la Libye. Et bien sûr qu'on croit ça, sauf que quand même il y a des pays qui sont moins exposés au choc en retour que d'autres. Parce que si vous regardez une carte du monde, vous voyez que l'Europe, c'est de l'autre côté de la Méditerranée. Les États-Unis, c'est beaucoup plus loin. Et Robert Kagan, qui était un théoricien néo-conservateur, avait une expression très belle. Quand je dis belle, elle est cynique, mais elle est parlante. Il dit, nous les Américains, on fait la cuisine, vous les Européens, vous faites la vaisselle. Et je trouve que c'est une très bonne illustration du partage des tâches dans la hiérarchie de la gastronomie mondiale, sans parler de ceux qui ramassent les assiettes cassées quand même, parce que c'est un peu ce qui se passe. Donc on est dans une quête de paix, mais avec de nouvelles formes de guerre.
Vieil adage, hein, si vis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre.
Oui, moi j'en ai un autre, je le connais celui-là, mais il y en a un autre qui vaut la peine aussi d'être cité, et qui figure au tribunal international de la haie, et qui figure au Bureau international du travail. C'est civis pacem, colle justitiam. Si tu veux la paix, cultive la justice. Parce que je l'ai dit à mes amis militaires, et j'en ai des militaires qui sont pas toujours les plus guerriers, les plus belliqueux. Eux, ils font leur boulot, c'est les politiques qui décident les guerres. Et ça, ils en conviennent. Ils savent qu'à un certain moment, ça sert à rien de livrer des batailles parce qu'on va les perdre. Hein, bon, les Américains sont retirés du Vietnam. Ils disent, on n'a pas perdu militairement, on a perdu politiquement, peut-être. Bon, c'est comme en Algérie, ils ont gagné la bataille d'Algérie, ils ont perdu la guerre d'Algérie. Donc, il y a un moment, la justice s'impose, le choc en retour revient. Et c'est ce que ne comprennent pas les Machiavel du petit matin. Ils ne comprennent pas les conséquences des actions qu'ils engagent. Et dans beaucoup d'actions, on verrait la même chose. Donc, c'est pas simplement par idéalisme que je prends ce parti-là, c'est parce que les guerres coûtent plus cher que les négociations.
On va dans un instant avec vous évoquer, dans un colloque d'ailleurs que vous préparez pour les 100 ans de la création de la Société des Nations, une série de figures marquantes. Mais venons d'abord sur cette Société des Nations, hein, centenaire, qui sort de mauvais traités, dit-on, mal négociés. Est-ce que le problème c'est les mauvais traités ou c'est que l'on voulait associer des nations, des pays, et que donc forcément on n'associait pas des individus?
C'est un grand débat. Pour le moment, la vie internationale est construite autour des États. Bon. Il y a des variantes. Par exemple, le Bureau international du travail, ça va être tripartite. Il y a les représentants des salariés, des employeurs et des États. On pourrait concevoir un système d'une ONU améliorée où il y aurait les États plus de la société civile. Encore faudrait-il la définir, ce qui n'est pas très simple. Donc moi, je pense que c'est la première remarque. La deuxième remarque, on fait souvent porter la responsabilité soit à la SDN, soit à l'ONU de leurs échecs, ou de leurs échecs relatifs, ou de leurs succès incomplets. Mais c'est un peu faux. C'est comme si on disait que l'hôpital est la faute du nombre insuffisant de guérisons. Ce sont des institutions. Et ce sont les pays membres qui commettent les erreurs. C'est pas la SDN ou c'est pas l'ONU. Il y a des choses qui ne sont pas faites par les États ou qui sont mal faites. Et l'institution peut pas emporter la responsabilité en tant qu'elle-même. Donc, faut pas leur demander trop. Il faut contrôler et il faut des équilibres entre les pouvoirs. Ça, c'est ce qui manque dans la vie internationale.
On ne se souvient du Négus venant plaider à la Société des Nations le cas de son royaume convoité puis envahi et mis en lambeau. Il vient deux fois. On a les textes et on a entendu sa voix ici ou un extrait de sa voix en début d'émission. On se souvient aussi de l'Allemagne nazie sous Hitler qui quitte, de Mussolini fâché, du Japon fâché, bref, de l'Axe fâché. Aujourd'hui, proportion gardée, on voit à la Maison-Blanche quelqu'un qui dit « l'ONU ne me convient plus, je me retire ».
Oui, ben oui, parce que le boss, c'est toujours le boss, hein. C'est pas véritablement nouveau. Ce qui est quand même très nouveau maintenant, c'est que les États-Unis restent la première puissance mondiale, mais enfin, des signes montrent qu'ils sont sur le déclin. Si vous mettez bout à bout les produits intérieurs bruts, vous vous apercevez qu'aujourd'hui, l'axe du monde, il est plutôt en Orient. Les Occidentaux, c'est 14% de la population mondiale. Moi, je le répète souvent aux étudiants qui continuent à croire qu'ils sont le centre du monde quand ils sont Européens ou Américains. Je dis non, c'est fini. Soit vous êtes un peu compréhensif avec les autres et vous essayez de les convaincre, soit vous allez au clash. Mais si vous allez au clash, vous n'êtes pas sûr de gagner aujourd'hui déjà. Et regardez les coalitions militaires autour de la planète, ça devient extraordinaire. Et l'OTAN en tête, l'OTAN qui aurait dû être supprimée au lendemain de la guerre froide, auquel on a confié de nouvelles missions, et du coup on a poussé les Russes à embrasser les Chinois, qui se sont associés aux Indiens, qui se sont associés aux Pakistanais, et avec les Iraniens comme observateurs. Et avec les Turcs, qui sont observateurs de l'organisation concurrente de l'OTAN auquel ils appartiennent. Donc, en fait, on a toujours un système de se tirer des balles dans le pied et de pas anticiper avec un coup d'avance. Malheureusement, les gens d'en face, ils ont un coup d'avance. Les Chinois, ils raisonnent à 50 ans. Hein.
Un des grands problèmes de la Société des Nations, et même encore aujourd'hui des Nations Unies, c'est de faire du dialogue, mais de ne pas avoir véritablement sa propre force d'interposition, même s'il y a des casques bleus, mais ce qui n'existait pas à l'époque laïcienne. Mais on n'a pas véritablement réussi par cela à remplacer l'OTAN ou le pacte de Varsovie à l'époque, probablement parce qu'ils existaient d'ailleurs.
Mais on n'a pas voulu. D'abord, si on appliquait la charte de l'ONU, on mettrait en œuvre les articles 46 et 47, que personne ne connaît, sauf une poignée d'experts. Les articles 46 et 47 de la charte de l'ONU stipulent qu'il est établi un comité d'état-major auprès du Conseil de sécurité. On comprend que pendant la guerre froide, c'était difficile. Mais au lendemain de la guerre froide, il était tout à fait intelligent de dire on dissout l'OTAN, on reconstruit l'OSCE, on établit un comité d'état-major auprès du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, vous savez, c'est 5 membres permanents plus 10 autres qui sont par rotation. Si vous mettez déjà tous les membres permanents avec leurs états-majors, vous êtes obligé de travailler à une coopération minimum. Et vous auriez un espace de négociation entre militaires et politiques. Au lieu de ça, il y a eu un accord secret en 2008 entre le secrétaire général de l'OTAN et le secrétaire général de l'ONU. Dans le dos du Conseil de sécurité, c'est-à-dire dans le dos des Russes, qui dit à partir de maintenant, on va avoir un partenariat, on va échanger des informations. Donc vous voyez que d'un côté, on ne cherche pas le vrai multilatéralisme, et de l'autre côté, on pousse des avantages avec des jeux de gamins de cours de récréation, parce qu'un jour ou l'autre, ça va se voir, ça va se savoir, et donc on se crée des problèmes. Donc moi, je suis inquiet parce que nos diplomates et nos responsables politiques n'ont pas pris la mesure du problème. Il a fallu que ce soit le nord de la Syrie et le Rojava qui fassent comprendre que les Européens servaient à rien dans l'OTAN, sauf à financer. C'est que quand le boss disait on se retire, même si après il dit finalement on revient parce qu'il n'y a plus de pétrole. Donc c'est du grand guignol. Alors M. Macron, il fait semblant d'être scandalisé parce qu'il n'a pas été tenu au courant, mais il ne pourra pas faire grand-chose.
Vous allez donc évoquer, à travers le centenaire de la Société des Nations, Gabriel Galis, trois personnalités maçonniques. Toute lauréate du prix Nobel de la paix, dont un Belge, Henri Lafontaine, ancien vénérable maître d'une loge bruxelloise, les amis philanthropes et créateur d'une loge auprès de la Fédération mixte du droit humain. Qu'est-ce qui poussait la franc-maçonnerie ou un certain nombre de ses figures emblématiques à l'époque, comme Henri Lafontaine et d'autres, à militer pour cette création, ces bureaux de la paix, cette internationalisation de la paix et ensuite, malgré le drame de la Première Guerre mondiale, à porter tant d'espoir autour de la SDN?
Parce que les humanistes voulaient résoudre les conflits par la négociation et par l'arbitrage. Ce n'étaient pas des utopistes complètement décalés de la réalité. On fait croire qu'il y a les réalistes qui veulent la guerre et les utopistes qui croient en la paix. Les réalistes, ce sont ceux qui savent qu'il y a des conflits, mais qu'on peut les résoudre autrement que par la violence. Donc la Première Guerre mondiale a été un gros échec. Ça a été l'échec d'abord des socialistes, parce que Henri Lafontaine était aussi socialiste. Et les socialistes allemands ont voté les crédits de guerre, et les socialistes français ont suivi, et puis la mécanique s'est engagée ensuite un peu spontanément. Mais ça a commencé, cette Première Guerre mondiale, avec l'exécution de Jaurès, et ça se termine par l'exécution de Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. Donc finalement, c'est quand même la classe militariste qui a piloté les opérations, liées aux industriels qui se sont très bien portés, Krupp, Renault et les autres qui ont fait fonctionner l'industrie de guerre. Donc on est dans un système qui fonctionne avec sa propre logique, ce que dans le domaine des recherches sur lesquelles je travaille, on appelle les marchés de violence. Marché au sens anthropologique et au sens économique du terme, c'est un marché qui fonctionne très bien. Vous savez, aux États-Unis, à New York, il y a même un indice boursier des valeurs militaires. Il n'y a pas que le Dow Jones, hein. Il y en a d'autres qui sont spécialisés et vous en avez un qui est, vous pouvez acheter des valeurs et vous êtes sûr que là, vous serez en tête de classement par rapport à d'autres. Donc, faut pas chercher midi à 14h. Tant qu'on sera dans un système concurrentiel où les pays sont mis en concurrence, les personnes sont mises en concurrence, où le néolibéralisme est la doctrine à la mode auquel se soumettent beaucoup de gens, même quand ils se disent parfois du bord opposé, bon, bah, finalement, on sera dans un système qui nourrit la guerre.
On verra concomitamment se créer sur sol suisse, et ce n'est pas, évidemment, sans mauvais jeu de mots, une question neutre à l'époque, on verra sur sol helvétique se créer à la fois la SDN et en même temps ces bureaux internationaux de la paix, et en même temps ces tentatives de bureau d'internationalisation maçonnique avec un bureau des puissances maçonniques. Pourquoi? Parce qu'on pense que la franc-maçonnerie pourrait être, dans son aspect cosmopolite, un bon canal.
Oui, on le pense, et puis on pense que la Suisse est en position centrale. Vous savez qu'il y a une partie de la Suisse qui est alémanique, donc tournée vers l'Allemagne, une partie qui est romande, tournée vers la France, que pendant la Première Guerre mondiale, ils se sont quasiment combattus entre eux, pas militairement, mais politiquement, et que Genève, de ce point de vue-là, est un lieu de convergence, comme La Haye l'a été. La Haye a eu cette image de ville de rassemblement de pacifistes. Bruxelles l'a eu aussi en partie, donc il y a des villes qui étaient prédisposées à ça. Et la Suisse a son image de neutralité depuis plusieurs centaines d'années, donc elle la cultive en quelque sorte. Et aujourd'hui encore, la Suisse a une diplomatie originale. Quand, par exemple, des pays rompent les relations diplomatiques, la Suisse est porteur des intérêts. Aujourd'hui, il n'y a plus de relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis ou entre l'Iran et les États-Unis. Et c'est la Suisse qui est porteur des intérêts américains à Téhéran. Donc elle négocie, elle représente à la fois les intérêts de son pays et représentant... Donc cette capacité de la Suisse de jouer... D'abord, elle est multiculturelle et multilingue. Ça lui donne un avantage par rapport à d'autres. Elle parle facilement 3 ou 4 langues dans ses diplomates. Et puis d'autre part, ils ont cette sensibilité de... Nous, on ne veut pas être l'objet de querelles entre les Allemands, les Français, voire les Américains. S'ils sont pas d'accord, il faut qu'on trouve une solution pour les mettre d'accord. Parce que on est au milieu, on est petit et on va souffrir directement ou indirectement. Donc un peu c'est ça la place de la Suisse. Et les francs-maçons, ben, je dirais au carré ils étaient concernés parce que qu'ils soient dans un pays belligérant, ils avaient la même position. Ils se sont réunis entre eux, ils se sont rencontrés. Jaurès et Rosa Luxembourg se rencontraient. Jaurès parlait allemand, mais ils se sont réunis à Zimmerwald pendant la Première Guerre mondiale. Effectivement, les stations suisses. Lénine s'est réfugié à Zurich. Bon, et c'est depuis Berne qu'on a décidé de l'envoyer dans un wagon plombé. Ça, c'était une riche idée de l'état-major allemand, de dire on va faire un cadeau aux Russes, on va leur envoyer Lénine pour qu'ils mettent fin à la guerre. Donc voilà, cette image de franc-maçon, a fortiori en Suisse, Élie du Commun ayant été le premier des 3 prix Nobel qu'on va honorer, et puis le dernier étant le français Léon Bourgeois, qui a été à la session de la SDN en 1920.
Ces personnalités, on va s'attarder, si vous le voulez bien, par exemple, un instant sur Henri Lafontaine, ces personnalités. Henri Lafontaine reçoit son prix Nobel de la paix en 1913.
Oui.
Il lui est très difficile, vu les mois qui vont succéder, d'aller d'ailleurs le quérir. Néanmoins, il est détenteur de ce prix Nobel. Que signifie-t-il ce prix Nobel dès lors qu'il lui est décerné pour des efforts qui vont aboutir à la guerre ?
En faisant de l'humour, je dirais que c'est déjà mieux que de donner le prix Nobel à Obama qui n'avait rien fait, parce qu'au moins il avait bossé avant, lui. Deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'il l'a partagé, Lafontaine, avec un sénateur américain. Et il était très fier, et il avait observé que ce sénateur américain qui avait reçu le prix Nobel, c'était un conservateur républicain, mais il faisait remarquer avec beaucoup de pertinence dans la déclaration qu'il a faite au lendemain de la réception du prix Nobel, où il a été déclaré, il a dit que les démocrates, contrairement à ce qu'on pensait, n'étaient pas les moins impérialistes aux États-Unis. Remarquez que c'est pas tout à fait faux, parce que si vous regardez Hillary Clinton, elle a été pour à peu près toutes les guerres que même Obama ne voulait pas. Donc je pense que c'est un signe de ce qu'a fait Lafontaine. On peut pas leur imputer les échecs ultérieurs. Lafontaine a été écrasé par cette Première Guerre mondiale. Néanmoins, il a continué. Il est mort en 43. Il a passé
au cœur de la deuxième.
Au cœur de la deuxième. Donc ça veut dire qu'il y a des combattants qui ont fait leur travail, qui ont fait avancer certaines causes, et ils ont semé des graines. Et on essaye d'en être les héritiers les plus dignes possibles.
Que vaut un prix Nobel de la paix, Gabriel Galis, hein, que voilà, on décerne ces heures-ci? Que vaut-il quand on voit une Aung San Suu Kyi aujourd'hui comparaître, parce qu'elle a fait choix d'ailleurs de représenter elle-même son pays, la Birmanie, devant les cours internationales?
Oui, c'est une bonne question, mais je la relativiserai. Je crois que le défaut des observateurs, commentateurs, c'est de toujours réduire un homme ou une femme à sa fonction, ou de réduire sa fonction à sa personne. Le président des États-Unis ou la présidente de Birmanie, je veux dire que quelles que soient ses bonnes intentions, il est quand même sous contrôle d'un appareil. Un appareil d'État, un appareil militaire, des lobbies, on parle même d'État profond aujourd'hui. Même sans même aller chercher l'État profond, Obama, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il a 15 agences de renseignement, 17 même. Et elles ne sont pas toutes d'accord entre elles. Il a réussi à avoir la sagesse, après avoir fait beaucoup d'âneries avec des drones et autres, à ne pas aller en Syrie. Bon, alors qu'il y était poussé par Hillary Clinton, il y était poussé par John Kerry. Bon, donc moi je pense que ces gens-là, Aung San Suu Kyi, elle aurait peut-être dû se retirer dans sa résidence personnelle. Elle est otage.
Ce qui vient de se passer avec les Rohingyas, qu'elle n'a pas désavoué,
oui,
pose question.
Mais elle donne vraiment l'impression d'être l'otage de la caste militaire. D'ailleurs, les militaires, ils contrôlent le dispositif, ils sont présents en tant que tels au Parlement.
Mais ça discrédite un prix.
Ben oui, ça discrédite un prix. Mais ça discrédite qu'on l'a donné à Kissinger, ce prix Nobel, quand même. Quand même être sérieux. On l'a donné à Kissinger parce qu'il venait de terminer la guerre du Vietnam, et il l'avait quand même nourri avant. Il avait fait un certain nombre de coups d'État au Chili et ailleurs pendant ce temps-là. Donc ce ne serait pas la première à laquelle on donne un prix Nobel pas mérité. Lafontaine le méritait, je pense. Bon, c'était solide.
Et ces deux autres collègues que vous soulignez tout à l'heure également. Le temps passe vite. Encore quelques mots sur cette dynamique internationale. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre estime, parce qu'on le dit souvent, il y a beaucoup plus de pays qui dialoguent au sein des Nations Unies aujourd'hui qu'il n'y en avait évidemment au sein de la SDN à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes plus légitimes? La SDN, elle, même La Fontaine, ne combattait pas le colonialisme, n'entrevoyait pas qu'à l'issue de la Première Guerre mondiale, par exemple, on allait recevoir 2 mandats de plus. Ce n'était pas au cœur de leur combat premier. Ils n'ont pas fait dans la charte de la SDN de la décolonisation l'objectif premier de la paix.
Non. Non, non, c'est vrai que ça fait partie des tâches de l'Occident et maintenant il y a des effets boomerang. Ça, c'est aussi un des problèmes qu'on voit. N'oublions pas qu'entre 60 et 2011, il a été exécuté, je mets ça de façon passive, 20 chefs d'État en Afrique quand même, hein. On a commencé avec Lumumba, on a terminé avec Kadhafi. La liste, vous pouvez l'établir, Sankara et quelques autres au milieu. Pourquoi on les a éliminés? Le Katanga, le secrétaire général de l'ONU qui est mort dans un accident d'avion, c'est en train de ressortir. Le dossier.
Ouais.
Bon, vous voyez, donc je crois qu'il y avait 50 États, il y en a aujourd'hui 190 aux Nations Unies. La multipolarité est en train d'apparaître. Je crois que quand on dit c'est la fin du multilatéralisme, c'est parce qu'on ne lit pas avec les bonnes lunettes. En fait, les BRICS émergent. En fait, on est dans un monde multipolaire dont on ne tire pas les conséquences, nous en Occident, parce qu'on aimerait encore être au pilote de l'appareil.
C'est ça, on ne tire pas les conséquences, mais par contre, on ne tire plus les ficelles.
On ne tire plus les ficelles, et si on ne change pas notre attitude, ça va se faire non seulement sans nous, mais contre nous.
Au bout du compte, qu'est-ce qui reste comme message de la SDN qui pourrait peut-être être utilement rappelé à l'ONU?
Ben, le message de la SDN, c'est l'arbitrage et c'est le non-recours à la force, parce que finalement, l'une des perversions de l'ONU, c'est d'avoir un système à 2 étages. Vous avez une assemblée générale où tout le monde est égal, vous avez un conseil de sécurité avec des membres permanents qui décident de la guerre et de la paix. Et en fait, ça s'appelle pas la guerre, hein. Il y a une chose assez extraordinaire dans la Constitution française, article 35 précise que les opérations de guerre sont décidées par le Parlement. Mais la France ne fait pas la guerre, elle a des opérations extérieures. Mais il n'y a pas de définition d'opération extérieure. Donc en fait, on viole et la charte de l'ONU et la Constitution française en toute légalité.
La preuve, des militaires sont tombés que l'on vient encore d'honorer dans la Cour des Invalides.
Bien sûr.
Merci Gabriel Galis. Je rappelle que vous présidez l'Institut international de recherche pour la paix à Genève et que vous préparez pour les mois qui viennent, là, semaines qui viennent, ce grand colloque à Genève pour les 100 ans de la création de la Société des Nations, à laquelle commémoration, on reparlera donc entre autres d'Henri Lafontaine, notre compatriote prix Nobel de la paix 1913. Inutile de ne pas vous le rappeler puisqu'on ne le dit pas assez souvent, donc je vous le redis. Henri Lafontaine, un Belge, prix Nobel de la paix, 1913.
Et que diriez-vous si nous vous disions, eh bien, quoique nous sommes intimement persuadés que la société ne pourra fonctionner que quand elle se sera revisée, qu'elle ne pourra fonctionner que quand l'abus du veto aura été extirpé, eh bien, nous allons renoncer à ces idées qui nous sont chères. Nous allons faire avec vous un nouvel effort pour appliquer la charte telle qu'elle est sortie de San Francisco. Nous allons renoncer à quelque chose que nous considérons d'essentiel à une seule condition. C'est que vous, de votre côté, vous promettiez vraiment de collaborer à l'exécution de la charte. Collaborer à l'exécution de la charte dans sa lettre, mais surtout collaborer à l'exécution de la charte dans son esprit. Cela veut dire que vous ne vous opposerez plus systématiquement et sans raison à l'admission de nouveaux membres. Cela veut dire que vous n'écarterez plus de la famille des Nations Unies des pays qui ont le droit d'y entrer aujourd'hui. Cela veut dire que quand, après mûre discussion, une recommandation sera faite aux pays faisant partie de l'organisation, vous accepterez d'y collaborer, car nous avons besoin de vous pour réussir dans notre tâche et nous vous demandons de ne pas saboter notre travail. Faisons cet effort, acceptez notre sacrifice, promettez-nous votre collaboration loyale, essayons de prendre un nouveau départ. Et si nous le prenons en essayant de nous rapprocher, en essayant de nous comprendre, alors la flamme qui nous brûlait à San Francisco rejaillira claire et vivante. Alors, nous pourrons de nouveau espérer dans les destinées du monde. Prenons ce nouveau départ ensemble. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, mais il est temps.